C'est pour ça qu'on est un peu fatigué, c'est parce que le dimanche soir, ben, on subit tout ce qu'on a fait le samedi soir. Et ça a commencé hier soir en beauté, parce qu'à 10h, on est allé au Spoutnik, on était parmi une salle déchaînée.
C'était incroyable.
C'était de la folie.
On est allé, Joris et moi, regarder Dead Sushi et se régaler un peu de cinéma japonais. Et il faut dire qu'on n'a pas regretté d'y aller. Donc pour expliquer très brièvement aux éditeurs et téléspectateurs, Dead Sushi, c'est un film sorti en 2012, une sorte de comédie-horreur plus comédie. Le plot, c'est une fille qui est fille de chef sushi, donc d'un monsieur qui fabrique des sushis. Elle est reniée honteusement par son père, parce que la société japonaise, c'est un petit peu difficile. Et elle se retrouve donc obligée d'aller travailler dans une auberge où elle n'a plus rien à faire avec les sushis, où elle est exploitée. Et dans cette auberge, va venir en villégiature un groupe pharmaceutique qui va passer son week-end là-bas. Sauf que, tragiquement, ils vont décider de manger des sushis. Ces sushis vont s'élever à la vie et attaquer tout ce qui bouge.
Ils viennent exprès dans cette auberge parce qu'elle est réputée à travers toutes les provinces du Japon pour être une des meilleures auberges de sushis. Et donc, la fille ne peut pas faire de sushis. Pourquoi ? Il y a une anecdote qui est très drôle. Parce que ses sushis sentent la femme.
Voilà, il y a une anecdote où son père lui reproche son manque de talent pour faire les sushis en avançant l'argument suivant. Quand tu touches les sushis, ça sent trop la femme parce que poisson pour plus poisson, ça ajoute trop de goût. Donc, elle est interdite de sushis.
C'est voilà. Un peu misogyne comme réflexion.
Délibérément.
Très intéressant.
Alors, il y aurait un débat à lancer là autour, mais je pense qu'on va avancer un peu plus loin. C'est pas le propre de ce film de vraiment créer un débat. Et en intermède, donc, on arrive dans la salle et on avait entendu parler de ce réalisateur qui s'appelle Noboru Eguchi et qui était passé l'année dernière au Black Movie.
On avait pu le croiser dans les allées du festival, toujours en kimono et accompagné d'un fœtus mort qu'il transportait sous son bras. Et c'était assez phénoménal de le voir. Donc, il avait promis que ce film serait disponible cette année. Il n'est pas venu le présenter, mais on a pu aller le voir et tout le monde se réjouissait. C'était vraiment une atmosphère déchaînée.
Tout le monde attendait un peu une sorte de preview à ce film. C'est-à-dire qu'il y avait eu une annonce tellement incroyable les dernières avant de voir le film que tout le monde s'attendait à passer un petit moment un peu showtime avant de passer au visionnement du film à proprement parler. Et en fait, on a eu droit à quelque chose d'un peu spécial.
On a une petite surprise. Avant que le film commence, voilà. On a eu droit à...
On s'attend à ce que le film commence et en fait ils nous ont passé une forme de reportage.
Un court métrage.
Voilà, qui s'appelait The Solution, qui est une sorte de pseudo programme familial à la NRJ 12, style vous avez des problèmes dans votre famille, on va les résoudre. Et là, le problème dans la famille, au début ça semblait un peu normal, c'était par rapport au petit garçon de la famille, mais après ça commence un peu à partir en cacahuète.
Et ce petit garçon mange des excréments humains, donc il attend que ses parents se nourrissent. Aille aux toilettes, et une fois qu'ils sont allés aux toilettes, ils récupèrent un caca vert, en fait, qui était...
C'est plus une grosse pâte à modeler verte, mais le fond de l'histoire reste que les parents doivent aller aux toilettes pour nourrir leurs enfants. Ça crée beaucoup de tensions dans la famille, parce qu'ils n'arrivent pas tous à aller à faire leur
suffisamment
selle
aux toilettes, à la demande du petit, donc le petit meurt de faim, parce qu'il n'a pas assez de caca. Bon, et voilà, donc... c'était une mise en bouche assez folle, en fait, pour nous... On s'y attendait pas, on avait droit à ça pendant une bonne demi-heure. Ce documentaire complètement mais ahurissant, coréen c'était je crois
oui. Ouais.
Et ensuite notre film a commencé, alors là on était vraiment déjà mis, préparé, l'ambiance était déjà
survoltée,
on avait eu droit à cette petite mise en bouche de 30 minutes et ça commence. Donc notre histoire c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, de l'absurde après, enfin t'as dressé un petit portrait.
Je préfère t'arrêter un petit peu avant, on s'est senti un peu jaloux toi et moi si tu te souviens.
Ah j'étais
parce
énervé.
Parce qu'au tout début du visionnement du film, on était déjà bien lancé et malgré les histoires scatophiles etc, on avait un peu faim et on a vu des gens à côté de nous qui ont ouvert des barquettes de sushis. Du coup on était un peu jaloux.
Ah je me suis senti idiot, j'étais là, ouais, mais voilà, ça c'est l'idée du siècle et j'y ai pas pensé quoi. Ah là, non, je me sentais
mais c'est
bête.
Vrai que pour résumer l'ambiance de la salle, il y avait plein de gens assis un peu n'importe où, n'importe comment. Enfin, c'est une atmosphère propre au Spoutnik.
T'as dû même utiliser tes privilèges de la presse, de journaliste,
oui,
pour rentrer.
Ils voulaient pas me laisser rentrer. Et je l'ai joué, je suis de fréquence banane. Il faut que je voie le film pour faire ma chronique. Je sais plus quoi faire. S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. J'ai dû me mettre tout nu, mais j'ai fini par rentrer. C'était bien. Et donc, on a commencé à visionner le film. Donc, le film, pour commencer, pour parler un peu de la mise en place de l'histoire... On retrouve cette fille donc qui est...
Une fois, on s'est arrêté au moment où elle arrive dans cette auberge pour être hôtesse, pour être geisha, pour s'occuper
Elle a quitté
des...
son père et elle arrive dans cette auberge pour faire un peu la geisha.
Et donc après le problème, c'est que parmi cette compagnie pharmaceutique, il y avait un ancien employé qui a été licencié pour des raisons obscures et qui a emporté avec lui le secret pour donner vie à des sushis. Donc sa vengeance...
Pas exactement des sushis, c'est plus pour faire revivre des choses mortes, qui était un peu le projet pharmaceutique, sauf qu'en les faisant revivre, elles deviennent extrêmement agressives. Et donc ce monsieur se balade avec un squid, je ne sais plus le terme en français.
Une petite seringue, là.
Non, une sorte de petit calamar qui le fait revivre et qui le fait attaquer le public un peu partout. Donc des gens meurent transpercés par le crustacé en question.
Et donc après, ça commence avec des baignoires et des baignoires de sang, de ketchup, de sang qui gicle dans tous les sens.
Mais en fait, ça va où ce film ?
En fait, ça va nulle part. Pour résumer les événements point par point, il se retrouve dans une réunion. Il y a cet ancien employé un peu aigri qui a injecté dans un sushi au préalable ce sérum. On voit donc le sushi, donc il y a la petite boule de riz et la tranche de saumon. La tranche de saumon se lève légèrement. On voit apparaître des dents et tout d'un coup un cri. Et le sushi commence à attaquer les gens.
Il surgit comme ça, il t'attrape le cou, paf, et tu meurs.
Et c'est affreux, c'est contagieux, donc il contamine tous les autres sushis. Donc tous les sushis commencent à attaquer tout le monde.
Et les humains deviennent zombies aussi.
Il y a des essaims de sushis qui volent à travers toute l'auberge, c'est la catastrophe.
Ah, vous n'allez pas dire la fin, il faut que les gens aillent le voir.
Là, t'as un espèce de climax de tension. Tu sais que ça part dans tous les sens, mais tu ne sais pas où c'est que ça va aller, où c'est que ça va se terminer.
Il y a plusieurs scènes d'anthologie. Il y a une scène où ils mangent des sushis sur la peau crue, sur la peau nue, pardon, crue aussi, mais là, c'est pas vraiment le propre du propos.
Sur de la peau vivante, même.
Voilà, sur de la peau vivante, sur les serveuses qui sont nues, et ils leur mangent les sushis dessus, parce que ça rajoute un petit peu de sel, un petit peu de poisson, comme on disait précédemment.
C'est ça.
Et donc, ils commencent à manger là-dessus, et tout d'un coup, les sushis commencent à devenir vivants également, attaquent la pauvre serveuse qui est déjà nue, et c'est la catastrophe.
Et comme dans tout bon scénario japonais, généralement, les sushis peuvent s'agglomérer entre eux pour donner vie à un kaiju, donc à un sushi géant, de la taille d'un humain, et c'est souvent le prétexte à la scène de bataille finale. Quoi,
voilà, et la bataille finale qui est après que tout se soit enfui. Ouais, voilà, sauf que c'est un gros thon, enfin, c'est une grosse tête de thon avec des jambes qui se balade avec une hache, et il finit par poursuivre tout le monde, ils sont plus que 2-3 survivants.
Et là, ça fait trop peur, faut pas en dire plus, en tout cas sur l'histoire. Tu peux encore peut-être...
Juste encore une petite information, moi, j'ai bien aimé, il y a un moment aussi où les sushis s'agglomèrent entre eux pour former une sorte de... The battleship, comme ils disent en anglais, parce que je parle super bien anglais.
Ah ouais, un bateau militaire.
Qui est énorme et qui de ses canons crache des flammes et brûle tout ce qui bouge aux alentours, qui finira également par être détruit. Mais enfin, une sorte de grand n'importe quoi sur lequel on a beaucoup, beaucoup ri.
Avec du grand n'importe quoi, ça
voilà.
C'est clair.
Je ne sais pas si on a réussi à rendre une vision claire du film, mais étant donné que le film en soi est un peu n'importe quoi, cette chronique l'était aussi, et on espère qu'à travers nos propos pas très clairs, vous allez avoir envie d'aller voir ce film. Voilà.
En fait, c'était juste une histoire de riz bien gluant, bien collant, avec du poisson, c'est tout.
Oui, oui, du poisson.
Et du sang, aussi, beaucoup.
Les femmes qui sentent le poisson.